Voilà, je voudrais bénir au nom de notre assemblée tous ceux qui arrivent nouvellement chez nous pour une première fois. Et voilà, le Seigneur vous bénisse et que surtout que ceux qui ont le cœur troublé puissent recevoir la grâce du Seigneur dans leur cœur pleinement. Voilà. Donc, vous savez que j'ai pris ce livre-là qui a été écrit par Claude Hood et qui s'appelle « Potentiel ». Mais il m'a semblé nécessaire, en plus qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois, de faire un rappel de ce que c'est ce livre. Et vous avez ensuite un sous-titre « Découvrez et développez votre potentiel ». Donc, un rappel. Le titre « Potentiel », le sous-titre « Découvrez et développez votre potentiel ». Claude Hood souhaite que nous soyons inspirés et que nous découvrions et développions notre potentiel que Dieu a mis en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous avons des dons, des talents et des capacités que Dieu a déposées en nous. Mais avons-nous pleinement saisi l'appel de notre Seigneur? Utilisons-nous pleinement nos dons, talents et capacités? Il est essentiel de bien comprendre l'ampleur, la profondeur et la réalité de notre potentiel qui vient de Dieu. Alors, que veut dire potentiel? Cela veut dire force ou ressources dont on dispose, c'est le dictionnaire, ou encore capacité ou possibilité de puissance. Donc nous avions vu au début, j'avais fait une définition et je reprends la même définition. Potentiel est dérivé de trois mots latins. Potens, qui veut dire puissance. Posse, pour rendre possible. Possédere, pour posséder. Autrement dit, pour saisir notre plein potentiel, il nous faut découvrir une puissance qui rend tout possible, mais que nous devons apprendre à posséder. D'où le sous-titre du livre de Claude Hood, « Découvrez et développez votre potentiel ». Nous sommes donc invités à découvrir, à cheminer pour prendre le potentiel que Dieu a déposé en chacun de nous pour accomplir le projet que Dieu a pour nous. Je vais brosser très rapidement ce que nous avons vu parce que voilà, c'est un livre complet, j'en suis là, donc presque à la fin, et c'est mon cinquième message. Donc voilà. Donc nous avions vu au début que Paul avait été emprisonné à Rome dans des conditions sordides où la mort pouvait le prendre à tout moment. Nous avons vu aussi les conversions de Timothée, de Lydie, d'une jeune esclave, d'un geôlier, soit quatre personnes qui constituent l'église primitive de Philippe. Ces quatre personnes, elles font écho dans nos vies. Elles ont des caractères bien particuliers et on peut se reconnaître dans elles. Il nous faut faire aussi confiance, car Jésus-Christ a commencé en nous une bonne œuvre qu'il rendra parfaite. Il faut prendre conscience de ça, c'est important. Il nous faut aussi abandonner, on avait vu par l'expression, mourir à soi-même. Il nous faut avoir un combat pour l'intégrité. Paul dit, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Il nous faut aussi avoir un combat pour l'unité. Et là, Paul nous dit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Le 28 janvier dernier, nous avons commencé le chapitre « La réponse de notre potentiel ». Et quand j'avais commencé ce chapitre, je me suis dit « Oh, il y a 5 points importants à voir, ça va être vite brossé ». Et en fait, j'ai fait que le premier passage. Alors, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire la réponse de notre potentiel. Eh bien, un des aspects les plus extraordinaires de notre potentiel, c'est l'appel de Dieu sur notre vie et notre réponse. Je veux dire par là que dans notre potentiel, il y a d'abord un appel de Dieu, quelque chose qui vous appelle. C'est comme notre ADN. Tous, nous avons un appel de Dieu. Et quand notre réponse est oui, quand nous répondons à Dieu, oui, je veux te suivre, et que nous nous mettons en marche, alors tout ce que Dieu a mis en nous, notre potentiel, est révélé. Claude Wood, dans ce chapitre, donc, développe 5 domaines, je vous l'ai dit. Alors, nous avons vu la référence de notre appel avec 2 personnages, Épaphrodite, qui est dans la Bible. C'est Paul qui en parle. On avait vu, j'avais donné un exemple aussi avec William Borden, quelqu'un de très riche, milliardaire, qui a donné sa vie à Dieu. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Hein. Mais surtout, la référence, elle est donnée dans la personne du Christ lui-même. Autrement dit, il faut suivre le Christ. C'est notre référence. Aujourd'hui, on va voir les 4 autres points qui sont le renouvellement de notre appel, les risques de notre appel, la reconnaissance de notre appel et la résilience de notre appel. Je reviendrai sur ce mot plus tard. On va commencer donc par le renouvellement de notre appel. Alors, lecture, on va prendre Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Alors, on a peut-être des petites différences de traduction, hein, c'est possible. Que ce qui occupe vos pensées soit tourné vers ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, méritant l'approbation, vertueux et digne de louange. Donc, je vais revenir sur le personnage d'Épaphrodite tout au long de ce message, puisqu'il est le fil conducteur. Et il est aussi, quelque part, une référence pour nous. Alors, je rappelle pour ceux qui étaient absents, l'église de Philippe vient d'apprendre que l'apôtre Paul est emprisonné. Ça fait plusieurs mois, il est à Rome, et l'église de Philippe a décidé d'envoyer une personne auprès de Paul pour le servir, pour le soutenir. Voilà. Et on sait que ce voyage va être périlleux. Il y a des risques. Il y a des risques de mauvaises rencontres, de maladies. À Rome, ce n'est pas facile puisque Néron pourchasse les chrétiens. C'est une persécution. Et Épaphrodite va dire oui. Il va se désigner en disant je veux bien aller à Rome pour servir Paul. Épaphrodite a grandi dans une maison où ce qui occupait les pensées des gens était complètement contraire aux valeurs chrétiennes. C'était un foyer de superstition ou de spiritualité, à la carte. En fait, dans son étymologie grecque, je veux dire par là, dans l'origine du mot, le nom Épaphrodite se dit Épaphroditos et se décompose en 2 mots. Épi, qui veut dire dévoué à, et Aphrodite, qui veut dire Aphrodite, la déesse grecque de l'amour et de la chance. Ce prénom reflétait ainsi la mentalité de recherche de plaisir de son époque. Une mentalité prônant l'élévation de soi et du plaisir absolu au détriment de toute forme d'humilité et de considération pour le besoin des autres. Je prends quelques exemples. Moi, mon bonheur, ma réussite, ma carrière, mes biens matériels, mes affaires, etc. Moi, moi, moi. Voilà ce qui occupait les pensées d'Épaphrodite avant son témoignage, avant sa conversion. Voilà ce qui était l'objet des motivations avant qu'il ne prenne la décision de marcher sur un nouveau sentier et d'accepter Jésus-Christ. Pour Épaphrodite, devenir chrétien signifiait être renouvelé dans ses pensées, dans sa mentalité, et apprendre à ne plus vivre seulement pour lui-même. Le témoignage d'Épaphrodite doit devenir un miroir confrontant pour tous ceux qui désirent servir Dieu, mais gardant une mentalité et des habitudes totalement incompatibles avec la nature et l'essence de celui qui nous appelle. Je veux dire par là le miroir confrontant. Je veux dire que il faut regarder ce qu'a fait Épaphrodite et ce que nous faisons aujourd'hui. Si vous voulez accomplir la destinée de Dieu pour votre vie, comme Épaphrodite, vous devez être renouvelé, dans vos pensées et abandonner une certaine mentalité pour les remplacer par les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Comme par exemple l'humilité, la patience, le pardon, la générosité, l'amour et le don de soi. Jésus-Christ a supporté et a été tenté en toute chose bien plus que tout homme. Il peut nous secourir et nous renouveler par sa parole et son Esprit Saint. Il nous donne de jour en jour les forces nécessaires pour être transformés à son image. On va passer au deuxième passage, les risques de notre appel. Lecture Philippiens, chapitre 2, verset 30. Chapitre 2, verset 30. C'est pour l'œuvre de Christ qu'Épaphrodite a exposé sa vie. En partant pour cette traversée en solitaire jusqu'à Rome, Épaphrodite savait pertinemment à quoi il s'embarquait. Il savait que Néron y régnait en dictateur absolu. Il était conscient du risque d'arrestation qui planait sur quiconque voudrait s'associer à Paul, un leader d'un message révolutionnaire et d'un mouvement naissant considéré comme une menace pour l'Empire. Par sa vie, Épaphrodite nous rappelle que servir Dieu, c'est aussi prendre des risques. C'est abandonner une mentalité qui refuse de remettre en cause notre sécurité, notre routine et nos standards de confort. Lorsque Paul rappela à tous qu'Épaphrodite avait exposé sa vie pour répondre à l'appel de Dieu, il choisit une expression grecque qui signifie précisément qu'il a roulé les dés, dans le sens de prendre un risque. Épaphrodite a risqué sa vie pour répondre à l'appel de sa destinée, je veux dire son potentiel. Aujourd'hui encore, il est impossible de faire avancer le royaume de Dieu sans prendre de risque. En effet, sans prise de risque, il n'y a pas de victoire. Celui qui désire servir le Seigneur doit être prêt à prendre certains risques. Comme Abraham, nous avons des exemples dans la Bible. Comme Abraham, nous devons prendre le risque de marcher parfois sans savoir où nous allons. Comme Moïse, l'ami de Dieu, nous devons prendre le risque de quitter notre confort pour marcher vers notre terre promise. Ça fait écho dans nos vies. Nous devons marcher quelque part, nous devons quitter quelque chose pour aller vers quelque chose que Dieu nous promet. Il y a aussi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous devons prendre le risque de nous lever, de combattre des géants qui n'avaient jusque-là jamais été abattus. Comme Épaphrodite, nous devons prendre le risque de vivre non selon le regard des hommes, mais celui de Dieu. Alors, je ne préconise pas et je n'y a pas de présomption, mais bon, il faut se préparer. On planifie les choses. Christ enseigne que celui qui bâtit la maison doit en planifier le coût. C'est dans Luc, Luc 14, 28. Voilà. Mais il y aura toujours une dimension de foi authentique dans l'accomplissement de nos appels. Il faut risquer dans la foi d'aimer, de pardonner, de donner, de laisser quelque chose ou quelqu'un, de risquer notre sécurité, nos habitudes. C'est le risque avec et pour Dieu qui nous apportera les plus grandes récompenses. Alors j'ai une question à vous poser. Quelle est la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Je répète. Quelle est la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Moi, je me suis posé la question aussi, hein, mais je ne vous donnerai pas la réponse. Ça fait un moment. Avez-vous pris un risque pour Dieu dernièrement ? Avez-vous pris un risque pour Dieu dernièrement ? Le risque de témoigner, de commencer quelque chose de beau, d'ouvrir votre bouche et votre cœur pour amener ou ramener quelqu'un vers Dieu, de pardonner. Le risque de vous impliquer dans un nouveau ministère. Le risque d'être un Épaphrodite moderne, si précieux aux yeux de Dieu. Voilà les risques de notre appel. On passe maintenant à la reconnaissance de notre appel. On continue avec Épaphrodite. Il a pris des risques, sans aucune garantie de succès, et il a accompli son appel sans obtenir la reconnaissance publique. Il en est de même pour nous aujourd'hui, pour les Épaphrodites modernes, qui répondent à l'appel de Dieu. Ils ne font pas la couverture des journaux après avoir accompli leur appel. Ils n'ont pas reçu beaucoup de likes sur leur profil Facebook. Ils n'ont pas non plus posté quelque chose sur Instagram et aucune célébrité n'a pris un selfie à ses côtés. Personne n'a écrit de biographie pour rendre hommage à leur vie. Ils sont restés anonymes pour la société et peut-être même pour leur église. Toutefois, aux yeux de Dieu, ils ne sont pas sans nom. À travers la plume de l'apôtre Paul, le Seigneur appela l'église de Philippe et appelle aujourd'hui notre église, les églises chrétiennes, à rendre honneur aux Épaphrodites d'hier et d'aujourd'hui et de reconnaître leur beauté de leur appel et surtout à imiter. Paul écrit à propos d'Épaphrodite au chapitre 2, verset 29, toujours lettre aux Philippiens, « Honorez de tels hommes, honorez de tels hommes. » Et au verset 25, mon compagnon, il lui donne deux titres, mon compagnon d'œuvre et de combat. Aux yeux de Paul, l'apôtre aux immenses accomplissements, auteur prolifique et prédicateur de puissance, Épaphrodite n'était pas un serviteur anonyme ni un bénévole de plus. Pour Paul, Épaphrodite était un frère, un compagnon d'œuvre. Il en est de même pour nous aujourd'hui, qui œuvrent actuellement pour Dieu. Ou le ferons, que nous sommes frères et compagnons d'œuvre, car nous œuvrons pour la même cause. Nous avons certes des responsabilités, une visibilité différente, mais nous sommes tous également précieux et importants aux yeux de Dieu. Épaphrodite, mon compagnon de combat. Dans la traduction littérale, l'expression compagnon de combat signifie soldat ou combattant stratégique. Un combattant stratégique. Il faut comprendre par là que nous avons chacun un rôle stratégique à jouer. Quel que soit le niveau où vous êtes, vous avez un rôle stratégique à jouer. chacun à sa mesure, à la mesure de notre implication. Et sachez que le Seigneur vous honore pour votre engagement et votre fidélité. Il ne faut jamais oublier que derrière le public ou de visible, il y a des personnes, des Épaphrodites, sans lesquelles l'exploit est impossible. Derrière les prédicateurs, les enseignants, artistes, ceux qui dirigent la louange, les musiciens, les leaders, les responsables d'église, il y a vous tous qui êtes là. Toute personne, des hommes et des femmes, qui servent, qui prient, qui mettent leur talent et leur temps et leur capacité au service du royaume de Dieu. Je vous en remercie. On passe à un autre chapitre. La résilience de notre appel. Je vais définir ce que c'est que la résilience. En physique, la résilience indique une valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. Bon. En psychologie, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Pour faire plus simple, c'est notre capacité à rebondir face aux événements que nous vivons. Cette capacité à se relever. Épaphrodite nous rappelle que notre destinée et le potentiel de notre appel s'accomplissent à travers notre fidélité, sur des longues routes où personne ne nous voit. On peut imaginer qu'après l'enthousiasme du moment, à Philippe, à l'église de Philippe, après quelques jours de marche sur le chemin, en direction de Rome, Épaphrodite était seul. C'était un chemin solitaire sur lequel il aurait pu abandonner 1000 fois sans que personne ne s'en aperçoive. Eh bien, c'est ça le ministère. C'est d'avancer, quoi qu'il arrive. Et c'est difficile. C'est qui vous êtes et ce que vous faites lorsque personne ne vous voit ou ne vous acclame. Oui, le ministère s'accomplit sur un long chemin, un chemin solitaire où vous demeurez fidèle et engagé, même lorsque personne ne vous voit, excepté Dieu. Ce sont le témoignage et l'exemple d'Épaphrodite. Voyez-vous, c'est dans l'épreuve, dans la difficulté, parfois même dans l'échec, que Dieu met son empreinte sur nous, nous transforme par l'Évangile et l'action de l'Esprit-Saint. Et à travers nous, Dieu touche des vies. Non seulement Épaphrodite était touché tout au long de ce chemin solitaire, traversant la maladie, en passant à un cheveu de la mort, mais il se rendit jusqu'au bout de sa tâche. Épaphrodite était donc un serviteur résilient. Je vous invite à être des serviteurs résilients. Je vais maintenant conclure, on arrive sur la fin du message. Servir Dieu, c'est la vie la plus extraordinaire qu'il ait donné de vivre. Chaque matin, nous nous levons en remerciant le Seigneur pour cette joie, cet honneur, cette grâce qu'il nous fait de pouvoir le servir. Quel privilège de participer à l'avancement du royaume et de pouvoir atteindre des milliers de vies pour l'éternité et ce de façon personnelle, une personne à la fois. Une question encore. Sommes-nous prêts à vivre sans compromis, sans retour en arrière et sans regret? Êtes-vous prêts à ça? À tous les jeunes et moins jeunes, êtes-vous prêts, sommes-nous prêts à vivre ce que Dieu a préparé pour nous? C'est donc un encouragement à continuer pour ceux qui y sont en marche et un encouragement pour les autres à se mettre en mouvement et à accomplir votre destinée, votre potentiel. On va prier maintenant. Donc, vous vous sentez libre, je vais faire une prière. Vous, voilà, ça peut être la vôtre, ça peut être une autre prière, c'est aucun problème. Alors, Seigneur Jésus, aide-nous à réaliser nos destinées que tu as préparées. Aide-nous à refuser d'agir avec arrogance, avec vanité ou vaine gloire. Seigneur, aide-nous à faire grandir dans nos cœurs les sentiments qui viennent de toi. Montre-nous comment dans nos vies, de façon concrète, comment mettre en pratique tes commandements. Continue à nous enseigner. Éveille-nous. Permets-nous d'être des Épaphrodites modernes à notre mesure. Nous souhaitons être des compagnons d'œuvre et des compagnons de combat. Seigneur Jésus, permets-nous d'avoir cette résilience, cette capacité de nous relever dans les difficultés. Jésus, nous te le demandons, donne-nous cette confiance que tu achèveras parfaitement ce que tu as commencé en nous. Amen. Voilà, soyez bénis.